Bonjour à tous. Alors pour commencer, je souhaite le Nowruz, le nouvel an zoroastrien, nouvel an iranien, pour mes auditeurs iraniens et centra-asiatiques, ceux qui sont là, et puis aussi ceux qui vont m'écouter sur podcast. Voilà. On va reprendre donc l'examen des peintures de la salle rouge de Valarcha, mais au préalable, je veux faire une annonce sur... Est-ce qu'on peut m'atténuer la lumière que j'ai en pleine figure, là ? J'ai un peu l'impression... Voilà, OK. Je voudrais faire une annonce sur une exposition, dite exposition virtuelle, parce qu'elle va être en ligne, qui a été organisée par la Sackler Gallery de Washington et le Freer Museum. C'est la première exposition sur les Sogdiens. La deuxième, ce sera celle au Louvre dans 2 ans. Et bon, j'ai participé à cette exposition, vous verrez. Alors, le site est très bien fait, on navigue, il y a toutes sortes d'arborescences, mais c'est très clair. Simplement, c'est pas encore sur le web. Ça devait l'être avant, mais il y a eu le shutdown de l'administration Trump qui fait que toutes les opérations ont été suspendues. Et en principe, ça devrait être en ligne cette semaine ou la semaine prochaine. Mais je pense qu'il suffit que vous fassiez Google sur Freer ou Sackler Sogdians et vous verrez tout de suite si c'est en ligne ou pas. Et ça va rester en ligne quelque temps. Alors voilà la page de titre. Et voilà déjà la structure de l'exposition. Hein, Sogdians at home. Alors, ce qu'ils ont mis. Oui, les Sogdiens chez eux, art et culture matérielle, les religions, les Sogdiens en Chine, ce sont les monuments funéraires qui n'ont plus de secret pour vous depuis mon cours de l'an dernier, de Nara à Nancy, les restes, les Sogdiens qu'on suit à la trace dans leurs vestiges matériels qui sont arrivés jusqu'en Europe occidentale. La fin et la redécouverte de la civilisation sogdienne. Je suis interviewé quelque part, mais je ne sais plus vraiment où. Je pense que c'est peut-être dans les Sogdians at Home, sur la peinture. Et puis, j'ai fourni donc, les photographies qu'on a de la grande peinture des ambassadeurs de Samarcande, maintenant complètement restaurée, qui au Louvre ne viendra que pour une petite partie d'entre elles. Et là, la totalité des murs se trouve dans les meilleures images possibles sur cette exposition virtuelle. Voilà. Alors, je reprends où nous en étions pour ce qu'on appelle donc la salle rouge du palais de Valarcha. J'avais donc expliqué qu'elle est disposée sur trois niveaux. Et le niveau supérieur, avec, semble-t-il, des griffons qui gardent un arbre paradisiaque pour lequel j'avais proposé une interprétation éventuellement zoroastrienne, c'est-à-dire l'oiseau mythique, le simorgue, qui garde l'arbre de toutes les semences et le fait polliniser en l'agitant avec ses ailes. Et puis ensuite, donc, deux niveaux. Un niveau avec une frise d'animaux scellée et un niveau avec des scènes de chasse. Alors, c'est là où nous en étions, où nous nous étions arrêtés. Alors, le niveau intermédiaire, voilà, c'est donc une frise, vous voyez ici, malheureusement coupée à la partie supérieure, mais c'est suffisant pour constater que ces animaux ont des étriers, des selles, mais pas de cavaliers. C'est-à-dire que ces animaux sont montés par un personnage invisible. Et on peut identifier... il y a visiblement un cheval, ici. Ensuite, peut-être ici un chameau. Ici, on a clairement... ici, c'est un lion. Enfin, plutôt, il est peut-être ici le lion. Un griffon, ici. Donc voilà, les animaux sont tantôt réels, tantôt fantastiques. Si on a un griffon avec ses pattes de rapace, on signale une panthère, mais ce n'est pas dans les images, un cerf, un tigre. Nous verrons ce qu'il convient de dire de cette curieuse frise. Et enfin, en dessous, on a le registre principal, c'est-à-dire une répétition de scènes avec dans chacune un personnage royal de type visiblement indien qui combat à dos d'éléphant. Il a un cornac, d'ailleurs, dont l'image ici et ici est effacée. Et il combat une série d'animaux. Alors, à nouveau, des animaux réels, hein, des fauves indiens, enfin, panthères, tigres, mais aussi... Alors, voilà, voilà une image typique. On voit très bien le cornac, ici. Mais aussi, parmi ses adversaires, il y a des dragons. Plutôt aussi un griffon, plutôt des griffons. Bien. Alors, ce décor est unique à bien des égards dans la peinture, il est dans la peinture sogdienne, parce que normalement, ces bandeaux sont des narrations. Il y a un récit qui se développe. Ici, ce n'est pas une narration, c'est une frise répétitive. Et par ailleurs, le combattant qui est répété ne fait penser ni à un dieu sogdien, ni à un roi sogdien. Le modèle est indien. Alors curieusement, il est assez clair que le peintre n'a jamais vu un éléphant. Cet éléphant, il rappelle un peu le vieux Cornelius dans les albums de Babar. Il fait penser. Il n'a jamais vu un éléphant, alors que celui qui avait peint la peinture des ambassadeurs à Samarcande avait évidemment des éléphants sous les yeux. Qui est ce personnage? Alors, pour Marchak pense quand même que c'est un dieu et que ce serait en fait le dieu suprême du panthéon zoroastrien sogdien, c'est-à-dire Ahura Mazda, mais que les Sogdiens connaissaient rarement sous ce nom, auquel ils donnaient le nom de Athvag, qui est plutôt en fait une épithète qui veut dire dieu suprême. Alors pourquoi est-ce qu'ils pensent à ce dieu? C'est qu'on sait par divers textes que ce dieu Athvag pouvait être assimilé à Indra. Indra, le dieu indien, le roi des dieux en Inde, et dont la monture est un éléphant. En fait, Neimarg a montré, dont j'ai cité l'article au début, a montré que le modèle n'était pas Indra, même s'il y a peut-être quelque chose d'Indra. Le modèle vient du bouddhisme mahayanique, c'est le bodhisattva Samantabhadra, qui est un bodhisattva protecteur, qui monte un éléphant. Alors ici, l'éléphant est monstrueux, il a trois têtes. Et alors, une des caractéristiques de l'éléphant de Samantabhadra, c'est qu'il n'a pas l'air très sympathique, et il a six défenses qui sont irréalistes totalement parce qu'elles sortent de la mâchoire inférieure. Alors, on ne voit pas bien ici, il y a d'autres images, vous en verrez après, bon, c'est plus net. Alors que normal, les défenses de l'éléphant sortent de la mâchoire supérieure. Et donc, il a fait l'hypothèse que cet éléphant, dont les mâchoires clairement sortent de la mâchoire inférieure, est simplifié par rapport à l'éléphant de Samantabhadra, dont par ailleurs il a les oreilles festonnées et l'air patibulaire. Bien. Alors, le type de Samantabhadra a pénétré dans la Chine de l'Ouest à partir du 7e siècle. Ici, c'est une bannière de Dunhuang qui est, je crois, à l'Ermitage. Certes, Samantabhadra est à l'origine probable de l'image dont nous discutons, mais c'est transposé parce que Samantabhadra ne chasse pas. Aucun bodhisattva ne chasse, puisque par définition, les bodhisattvas ont le respect des créatures vivantes. Donc, c'est autre chose. Alors, est-ce malgré tout un dieu, comme le voudrait Marchak? C'est quand même, on peut objecter que dans la peinture sogdienne, on a des... On voit parfois un dieu qui combat activement des guerriers démoniaques. Bon, c'est le cas, je vais en parler tout à l'heure, dans la peinture de Charleston. Mais on n'a aucun exemple, ni en Sogdiane, ni en Inde, d'un dieu qui chasse les bêtes à dos d'éléphant avec un cornac. Donc, Naimak pense plutôt à une image symbolique royale. Alors, c'est le roi... Il a des rubans à la Sassanide, mais ça, à cette époque, en Sogdiane, tout le monde a des rubans à la Sassanide, les rois ou les dieux. Naimak fait l'hypothèse d'un message codé. Voilà, il dit ésopéen. On transmet une leçon par les... les bêtes. Un message qui n'est pas direct, qui est symbolique, et où serait évoqué le combat du roi, qui en l'occurrence est le commanditaire, le roi de Boukhara, contre ce qui est clairement les forces du mal. Qui sont les forces du mal pour le roi de Boukhara dans les années 730 ? Je vous laisse deviner. Bon. Donc ce serait une manière d'évoquer les combats contre les Arabes, mais dans un contexte où le roi de Boukhara, qui à l'époque Tokres Pavé, était en position délicate et ne pouvait pas s'afficher ouvertement comme non-musulman. Bon. Pour le moment, on peut en discuter, mais enfin, à mon avis, pour le moment, on n'a pas trouvé mieux comme explication. Alors, pour la frise du registre médian, celui qui surmonte celui-là, là, Marchak et Naimak sont d'accord. Là, c'est clairement une image symbolique de Dieu. Ces animaux sont montés par un Dieu, sont chacun montés par un Dieu invisible. On sait par ailleurs que dans le panthéon sogdien, fortement influencé par le panthéon indien, assez régulièrement, à chaque Dieu est attribué un animal qui lui sert de monture. Alors, ceci dit, dans le détail, les correspondances entre tel ou tel de ces animaux et tel ou tel des dieux du panthéon connus dans le panthéon sogdien ne sont pas toujours évidentes. Le cheval, bon, pour le cheval, évidemment, on pensera à Mitra. Et d'ailleurs, voilà, sur la peinture des ambassadeurs, les prêtres qui amènent au sacrifice un cheval, lui aussi scellé, sans cavalier, qui pourrait effectivement être destiné à Mitra, dieu solaire et juge des morts. Bien. Le lion à l'étrier, qui est probablement celui-là. Alors là, bon, assez clairement, il doit être monté par Nana, c'est là, qui est la déesse qui est toujours montée sur des lions. Alors, voilà ici. Voilà cette peinture de Charleston, on en reparlera tout à l'heure, où on voit un dieu, Wesh Parkar, qui, on en reparlera, qui effectivement participe à une bataille, mais il n'est pas à la chasse avec un cornac. Voilà une peinture de Penji Kent, où on a une scène de bataille, où on voit ici. Le lion scellé, qui est évidemment monté par la déesse Nana, laquelle préside à la bataille et visiblement est là pour aider ceux qui combattent en son nom. On reverra ça après beaucoup plus en détail sur la peinture de Charleston. Et sur cette même peinture apparaît une panthère noire qui est également montée par un cavalier qu'on ne voit plus et ce cavalier chevauchant une panthère est du côté positif, parce que celui qu'il est en train de terrasser par terre, c'est un démon. Les codes du démon, il est nu avec des anneaux aux chevilles, enfin, c'est une des manières de représenter les démons. Alors, bon, quel peut bien être... Alors, il se trouve que dans la peinture de Valarcha, on a effectivement dans la galerie de ces animaux scellés une panthère. Quel peut bien être le dieu qui montre une panthère? On n'en connaît qu'un, c'est Dionysos. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Bon, c'est après tout pas impossible que, comme on sait que Nana en Sogdiane avait dans sa troupe, dans sa compagnie, une déesse qui remonte à la déesse grecque Déméter, il y aurait peut-être bien pu y avoir aussi Dionysos. Mais enfin, là, pour ça, on n'a vraiment pas de parallèle. Bien. Alors, pour d'autres dieux, là, on a un peu de mal quand même à trouver des réponses. Il y a quelque part... Donc, ici, c'est un chameau. Le dieu au chameau en Sogdiane, on en discute. Il est d'ailleurs représenté dans une autre peinture de Valarcha. Ça pourrait être Wahram, le dieu de la guerre, dont le chameau est l'une des incarnations animales. Ça peut être aussi le dieu de la fortune, Farn. Pareil, l'ibex, qui semble-t-il aussi représenté, pourrait être une monture de Wahram. Le griffon. Alors, il y a une déesse au griffon qu'on a sur quelques documents sogdiens, notamment des reliefs de bois. On fait l'hypothèse que ça pourrait être la déesse de la terre, c'est-à-dire Spandarmat. Parce que donc son équivalent gréco-romain Cérès peut être montré chevauchant un griffon. Mais alors il y a d'autres animaux pour lesquels on n'a pas de dieu à proposer. Il y a le tigre, le cerf. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Il semble quand même que cette explication qui veut reconnaître là une évocation de Dieu qu'on évite de montrer, parce que peut-être effectivement le contexte à Boukhara à ce moment-là, avec les Arabes dans la coulisse, ne se prête guère à l'affichage du polythéisme, cette explication paraît quand même actuellement la meilleure. Alors depuis, on a quelques données nouvelles. Voilà, un sceau de Kucha qui m'a été signalé par Etsuko Kagegama, qui est un modèle vraiment assez direct de cet éléphant de Valarcha, puisqu'il y a le cornac, le personnage qui monte, qui chasse le tigre, et ici, donc, il pourrait effectivement s'agir d'une image royale. Et puis, une transposition plus tardive, un peu plus tardive, ça reste quand même peut-être fin 8e siècle, au Tibet, sur un vase d'argent doré que j'ai publié, où on a l'éléphant de Samantabhadra, avec son air très méchant, on lui a même mis des dents partout, et qu'un éléphant n'a pas, et sa défense qui part de la mâchoire inférieure, et qui est montée par un personnage qui semble clairement royal. Il y a un cornac derrière. Donc, visiblement, le thème était dans l'air à cette époque, au 8e siècle, célébrer la gloire du roi par ce type d'image. Alors, c'est quand même pas évident de constater que l'imagerie royale à Boukhara, à cette époque, emprunte aussi massivement à des modèles indiens, alors que les modèles qui s'étaient imposés depuis longtemps pour la propagande royale étaient les modèles sassanides. Alors pourquoi maintenant les modèles indiens? Alors, Naimark, toujours lui, attire l'attention sur un passage de Narshari, à propos donc des rois anciens de Bukhara, où il mentionne sans date une épouse royale qui serait venue de Chin. Chin, en principe, ça veut dire la Chine, mais en fait, ça peut aussi tout aussi bien dire le Turkestan chinois. Et cette épouse royale aurait établi près de Bukhara une maison des... un botrané. Alors, on peut traduire... bot, c'est Bouddha. Alors, on peut traduire sanctuaire bouddhique, mais en persan, ça peut désigner toute espèce de sanctuaire à idole, puisque... le mot l'idole par excellence dans le monde iranien, c'est évidemment Bouddha. Donc voilà, on a cette notice, malheureusement sans indication de date. Et puis il se trouve que le dernier fils de Tokhespade, le roi sous lequel a probablement été commandé la salle rouge, le dernier fils de Torres Padet, portait apparemment un nom bouddhique. Il va lui succéder beaucoup plus tard, je vais en parler, il s'appelait Bunyad, et ça pourrait venir d'un nom bouddhique, Punyadatta, c'est-à-dire créé par ses mérites. Donc, on sait que Torres Padet, quand il est assassiné à Samarcande, a ses os prélevés par ses gardes pour les ramener à Bukhara. Donc, il se fait enterrer comme un bon zoroastrien, mais il n'est pas impossible qu'il ait été un peu éclectique. On a des idées, à la même époque exactement, on a des souverains de Kaboul qui mettent des images zoroastriennes sur leur monnaie, mais dont on sait par ailleurs qu'ils ont fait des dons à des sanctuaires bouddhiques et qu'ils ont dédié des statues de Shiva. Dans ce contexte tardif et ces religions d'Asie centrale sont toutes sur la défensive face à l'invasion arabe, il y aurait quelques indices de perméabilité, voilà, dans les milieux royaux au moins, entre diverses affiliations religieuses. Alors, quoi qu'il en soit, Avararsha, donc la salle rouge, n'a sans doute pas vécu très longtemps. D'ailleurs, elle est en excellent état. Enfin, elle était en excellent état avant d'être recouverte par les débris. Donc, on se situerait, selon Neimark, vers les années 730. Et tout est restructuré immédiatement après. Alors, sous les successeurs de Torres Padet, qui sont ses fils, qui se succèdent sur le trône. Alors, on a un premier fils qui s'appelle Kutaiba, qui son père avait donné le nom du premier conquérant arabe. Alors, sous Kutaiba, on n'a pas grand-chose à attribuer à Kutaiba, mais peut-être quand même une phase artistique, ici, voilà, avec des statues en terre crue recouvertes de plâtre. Là, on est dans des réminiscences qui sont très clairement sassanides, peut-être aussi omayyades. On a exactement le même style de drapé sur les plus beaux des ossuaires sogdiens de cette époque. Mais en tout cas, cette phase-là se termine par un grand incendie que Neimark relie à la catastrophe politique de Kutaiba, lequel a été exécuté sur l'ordre d'Abu Muslim. Donc là, c'est l'un des rares points d'accrochage de la chronologie. Tous ces règnes se terminent mal, mais dans ce cas précis, il y aurait eu incendie du palais. Et puis ensuite, on a une nouvelle phase avec un jeune frère donc, qui s'appelle Bunyad, qui est peut-être originellement un nom bouddhique, qui règne longtemps, pendant 30 ans, jusqu'en 782, et qui restructure absolument tout. Alors là, on est carrément dans l'époque abbasside, et c'est fascinant, on voit que les courants artistiques ont basculé. Les influences ne viennent plus d'Inde, elles viennent très clairement de l'Ouest. Les influences viennent de l'Empire abbasside, avec aussi des rappels de ce qu'on trouvait dans la Romayade. Alors, Bunyad fait construire une très grande cour d'audience avec un iwan, enfin donc une arche au fond, appuyée sur des gros piliers massifs en briques. Ça, c'est étranger à l'architecture sogdienne précédente, mais c'était connu dans l'art sassanide, dans l'architecture sassanide. Et on a la même chose, exactement à la même époque, avec le palais que se fait bâtir Abu Muslim à Samarcande. Et cette grande salle d'audience est entièrement recouverte de décors de stuc qu'ils sont parvenus en morceaux, parce que visiblement tout ça a été détruit intentionnellement. Du stuc incisé, voilà, d'un style complètement inconnu auparavant en Sogdiane, qui est évidemment le style syro-irakien de cette époque. Hein. Alors, on trouve un air de famille, bon, avec les stucs omeyyades, ben, les stucs des palais omeyyades, par exemple à Kasr el-Khair el-Harbi, plus anciens. Belenitsky avait même pensé qu'il y aurait pu y avoir des échanges d'artistes. C'est-à-dire qu'il y aurait pu y avoir des artistes omeyyades qui seraient venus travailler en Asie centrale, à Boukhara, et à l'inverse, des artistes de Boukhara qui auraient pu contribuer au décor des palais omeyyades. En fait, les dernières études de comparatives sur tous ces stucs, notamment celle de Rina Talgam, The Stylistic Origins of Umayyad Sculpture, 2004, conclut plutôt à un substrat commun sassanide, mais à vrai dire, quand on regarde les stucs sassanides, on trouve quand même... il ne semble pas qu'on atteigne ce niveau artistique. Les formes animales et humaines dans les stucs sassanides sont quand même assez lourdes, ce qui n'est vraiment pas le cas ici. Alors, par-delà le complet changement des styles, les thèmes principaux, quand même, certains thèmes se maintiennent par rapport à l'époque précédente. On a le thème du roi chasseur. Voilà. Ça, c'est remonté au musée de... à l'un des musées de Tashkent. Ce panneau viendra à Paris, à l'Expo du Louvre. Mais vous voyez ici, le roi ne chasse plus les monstres ou les bêtes féroces comme faisait son prédécesseur. C'est simplement un chasseur qui manifeste sa vaillance en chassant le mouflon et l'ibex. On a des bassins avec des poissons, des anguilles, des carpes, etc. Alors, comment interpréter ce décor, encore une fois, est parvenu en fragments. Alors, ce qui ne facilite pas les choses, c'est qu'une partie des fragments sont à Moscou, une partie sont à Boukhara, une partie est encore sous terre, sur place. Moi, j'en ai ramassé quand je suis allé il y a longtemps, j'en ai ramené chez moi. Des petits. Non. Marchak pense à une interprétation très symbolique, une vision des étages de l'univers, des étages de la création. Alors, effectivement, on aurait à ce moment-là le niveau aquatique en bas avec les poissons. En haut, on a au milieu, on aurait ces scènes de chasse. En haut, on a des oiseaux et puis des grands arbres qui font le lien entre les divers étages. Mais alors, ça ne fait pas l'unanimité parce que celle qui actuellement publie le plus sur ces stucs, qui est donc Madame Alpatkina Tsvetkova, qui étudie les fragments qui sont au musée de Moscou. Elle tire plutôt l'interprétation vers quelque chose de plus profane. Ce seraient des images liées au thème du parc de chasse royale. Le paradis, le paradis au sens persan, puisqu'on sait le mot paradis, notre mot paradis vient d'un mot persan qui veut dire parc de chasse. C'est Paridaisa, mur qui entoure. Bien. Il y a quand même des objets. Alors voilà, elle pense que dans ces paradis, on sait qu'il y avait des bassins. Ce serait ça qui serait représenté. C'est quand même pas tenable complètement parce qu'il y a des images qui sont incontestablement mythologiques. Voilà, il y a des harpies. Alors qu'est-ce que ça viendrait faire dans un paradis de chasse ? Ici, c'est mal conservé, mais vous voyez. Un petit amour qui chevauche un poisson. Voilà, c'est pas vraiment ce qu'on rencontre en se promenant dans un jardin. Il y a des dragons. Bien. Et surtout, alors, il y a aussi des images qui tirent davantage vers le divin. On a ici cette figure. Alors, vous voyez, en fait, il tient pas une... Ce qu'il tient, c'est l'extrémité d'un grand voile qui est au-dessus de sa tête et qui devait tenir de l'autre main. Ça, c'est la manière de représenter le dieu du vent. Bien. Et puis, on a quelques indices. Alors, voilà, c'est en morceaux, mais il y aurait apparemment un personnage dans un char solaire avec des ailes Voilà, voilà le cheval avec ses ailes, et voilà le cavalier, riche, peut-être cambré vers l'arrière, et très richement orné. Oh là, qu'est-ce que je fais ? Ah oui, oui, c'est bon. Donc, il y a incontestablement des réminiscences de Panthéon, mais est-ce qu'on aurait déjà ici la réduction du polythéisme pré-islamique à des représentations astrales, ce qu'on va retrouver dans toute la peinture islamique ultérieure. Alors, je vais maintenant tenter... je vais essayer d'arriver sur mon autre PowerPoint. Alors, attendez. Mais oui. Non, c'est pas sur le... Alors, je l'ai, mais il n'est pas sur l'écran. Bah, c'est-à-dire, oui, mais je voudrais bien qu'il s'affiche. Alors, attendez, il y a peut-être un en bas. Il me semble qu'on m'avait montré. Oui, ces petits trucs-là. Non, pas là. On appuie là-dessus. Oui, c'est bon. J'y suis arrivé. Après 6 ans, j'arrive. Alors, nous allons en venir maintenant... l'étude du palais de Valarcha introduisait le thème de la poursuite du mécénat princier dans un contexte qui est déjà celui des premiers temps de la domination islamique. Il faut maintenant en venir à ce qui est l'ultime splendeur du mécénat princier sogdien sur des thèmes traditionnels, c'est-à-dire le palais de Shahristan en Oustrouchana. Oustrouchana, j'en ai déjà parlé, donc c'est ce pays, ce petit pays de piémont et de montagne qui se trouve au nord-est de Samarcande, et dont la soumission définitive est intervenue vraiment tardivement, pas avant le IXe siècle. Donc, comme Valarcha, les peintures de Shahristan donc, sont une commande royale. Alors, on peut dès lors se demander si les rois des vieilles dynasties n'étaient pas restés, après 750, les seuls à pouvoir se permettre financièrement et politiquement ce type de commande, alors qu'aux époques antérieures, n'importe quel noble ou riche marchand possédant une riche demeure urbaine pouvait se payer ce genre de décor. Alors, ces peintures de Oustrouchana, on en a parlé au colloque de l'année dernière, en mai, parce que je pense qu'on peut faire de très sérieuses avancées sur leur interprétation. Une petite partie de ces peintures ne seront pas à l'exposition du Louvre dans 2 ans, puisque cette exposition concerne l'Ouzbékistan et que Shahristan se trouve dans la partie tadjique de l'Oustrouchana. Mais une petite partie de ces peintures viendront à Paris en novembre prochain à l'exposition du musée Guimet. Je suis d'ailleurs chargé de faire les notices sur ces peintures, ce qui, du coup, va me permettre d'imposer mes théories aux visiteurs. on a déjà parlé du dernier représentant de cette dynastie de Oustrouchana, Haïdar Afshin. Il s'est fait musulman en 823. Haïdar, c'est évidemment le nom qu'il a adopté à sa conversion. On ne sait pas comment il s'appelait avant. Alors, c'est une dynastie qui est d'origine turque. Le premier ancêtre connu, disons, dans la deuxième moitié du 8e siècle, s'appelle Karaburra, chameau noir, bon, typiquement. Et puis, curieusement... dans les deux générations suivantes, ces Turcs qui sont peut-être des parvenus mettent un grand soin à afficher des noms extrêmement connoté du point de vue iranien. Hein, le deuxième, c'est Kharakhara. Bon, c'est veut dire, alors c'est dont le, je traduis, dont le charisme vient du soleil. Voilà, Kharakhara, le principe qu'on traduit parfois gloire, mais qui est aussi le principe de la légitimité, de l'irradiance, etc. Alors lui, il est attesté jusqu'en 792. Il a un fils qui s'appelle Kaous, dont on va être amené à reparler. Alors Kaous, Kay Kaous, c'est l'un des grands rois légendaires de l'Iran ancien, qui figure abondamment dans le Livre des Rois. Et puis, en 823, avec l'appui du calife, Kaous, en fait, Haïdar, l'un des fils de Kaous, qui Kaous, théoriquement, s'était fait musulman, mais personne n'y croyait, et l'un des fils de Kaous, Haïdar, obtient une armée abbasside pour aller détrôner son père, lequel, quand même, bon, finit honorable, enfin, se retrouve à Bagdad, où théoriquement, là, il se convertit vraiment, mais son trône, le souverain devient son fils, mais la carrière de Haïdar ne se déroulera pas en Ostroushana, j'en ai déjà abondamment parlé, elle se déroulera à Bagdad et à Samara, puisqu'il est devenu le principal général de l'Empire abbasside pendant une quinzaine d'années, c'est l'homme fort du régime, jusqu'à sa chute spectaculaire en 838, où justement on va déterrer des évidences destinées à montrer que sa conversion était de pure forme et qu'il était resté en fait, même pas seulement un zoroastrien sogdien, c'est-à-dire un zoroastrien idolâtre, c'est-à-dire non susceptible de recevoir des appuis de l'establishment zoroastrien de l'époque. Et on a vu qu'à son procès, avait témoigné contre lui non seulement des pauvres bougres qu'on avait fait venir d'Oustrouchana, mais le chef de la communauté zoroastrienne d'Iran, le Rudenant Peshobai, qui devait être extrêmement méfiant devant tout ce qui pouvait faire apparaître aux yeux du calife sa religion comme condamnée d'idolâtrie. Or, on a coincé Haïdar en découvrant dans un coffre, dans sa maison qu'on a perquisitionnée, des images de culte. J'en ai déjà beaucoup parlé. Alors, le contexte archéologique, donc, on est au nord du Tadjikistan. Voilà, c'est un complexe palatial avec d'ailleurs des palais d'époque successive et qui domine une riche plaine. Et au bout de la plaine se trouve la grande ville de la région, qui est Uratyube. Le palais a été fouillé de 1965 à 1972 sous la direction de l'archéologue et homme politique tadjik Nouman Nigmatov. Alors, en fait, bon, lui et ses collaborateurs ne s'intéressaient qu'à l'architecture et aux œuvres d'art, les peintures murales, les bois sculptés, etc. À ce jour, il n'y a pas et il n'y aura probablement jamais de véritable publication archéologique. Alors, il se pourrait aussi qu'en matière de monnaie, de poterie, de stratigraphie, on n'ait pas trouvé finalement grand-chose, parce que ce palais a péri dans un incendie et peut-être avait-il été auparavant déménagé de son contenu. Ensuite, un autre palais donc apparaît. Alors, bon, disons, l'hypothèse la plus commode, c'est de mettre en rapport l'incendie qui met fin au palais de Charistan avec la catastrophe politique du souverain Haïdar Afshin en 838. Alors, sur le nom, bon, le site localement porte plusieurs noms. Enfin, Charistan, qui veut donc dire ville fortifiée en persan. Il est également localement appelé Kala i Karkaha. Alors, j'ai eu toute une discussion là-dessus avec Pavel Lourier, parce que Karkaha, en fait, c'est la légende, c'est une légende d'un roi qui se serait appelé Karkaha, qui était un roi qui passait son temps à rire. Et puis, il est converti par, par l'imam Ali. Voilà. Et puis, donc, il devient musulman. Et à partir de ce moment-là, il arrête de rire. bah alors, bon, il y a des... il est possible, il est en fait possible, c'est une idée qui me vient maintenant, que je soumettrai à... En fait, ça me paraît même très probable que c'est une histoire, c'est une étymologie populaire qui vient en fait du nom de Harahara, nom bien attesté d'un des ancêtres de la dynastie. Et donc le palais aurait pu être en fait le palais de Harahara. Alors, on discute pour savoir si... Il se trouve que les géographes arabes nous parlent de la capitale du pays d'Oustrouchana, qu'ils appellent Bunjikat, qui veut dire la ville au canal percé. Bouné, en sogdien, veut dire percement. Etc. Et alors, la question, aujourd'hui, donc la doctrine de Nigmatov, c'est que Bunjikat, c'était Shahristan. En fait, il semblerait... C'est probablement pas exactement ça. Bunjikat devait plutôt être la capitale proprement dite. Donc Bunjikat devait être la grande ville d'Oratiubé, qui reste aujourd'hui le grand centre de la région, à 25 km de là. Et le site de Shahristan aurait été la résidence hors les murs des rois d'Oustrouchana. Situation que maintenant nous connaissons bien, et à Bukhara avec Varaksha, qui est la résidence sur les murs, et à Samarcande avec Kafirkala, qui est la résidence sur les murs. Le plan est le plan classique d'un palais sogdien, hein, avec donc une grande salle d'audience si, et un salon à caractère plus privé, d'où viennent l'essentiel des peintures, de longs corridors également peints, etc. Les scènes que nous allons discuter maintenant et qui peuvent donc être dites païennes, ont été trouvées en fait dans les corridors et surtout dans ce qu'on appelle la petite salle, qu'on appelle par ailleurs la salle bleue. Alors, ça a des incidences sur la date qu'on peut leur attribuer. Parce qu'en principe, il ne serait pas imaginable que de telles peintures aient pu être exécutées ou même conservées dans un contexte où les souverains s'affichaient musulmans. Mais, si on n'est pas vraiment à la capitale, dans la résidence personnelle du roi, et en plus, on n'est pas dans la salle d'audience, mais on est dans un salon à caractère plus privé, il n'est pas impossible, du coup, que des sujets un peu plus sulfureux aient pu continuer au-delà. Même au-delà de l'islamisation officielle de la dynastie en 822. On a quand même des indices d'une date assez tardive. C'est le répertoire des démons. Voilà un qui accompagne la déesse Nana. Ça, c'est donc dans le salon bleu. Voilà, en voilà un autre. Là, c'est vraiment Quasimodo. Ces démons, on ne les retrouve pas dans la peinture de... On n'a pas ces types de démons dans la peinture de Penjiket, qui s'arrête vers 750. C'est plus tardif. Les parallèles sont dans l'art du Turkestan chinois et aussi dans l'art tibétain, beaucoup plus tardif. Il y a des parallèles très étroits. Bon, ce démon, j'avais même écrit au crayon, là, ici, sur mon exemplaire du livre, Marakala, c'est vraiment le type, c'est un type de démon bien connu dans l'art bouddhique tantrique tibétain qui semble pas apparaître avant la deuxième moitié du 8e siècle et les œuvres qu'on a en fait sont plus tardives. Donc là, on n'est plus dans le même univers, enfin, on n'est plus dans le même contexte qu'à Penjiket, on est plus tard. Bien. Donc, disons, en ce qui me... Pour toutes ces raisons et d'autres que je vais être amené à expliquer, je pense qu'en fait cet ensemble peint, ce qui ne veut pas dire que le palais soit pas plus ancien, mais cet ensemble peint date en fait des alentours de l'an 800. Donc on serait un bon demi-siècle après Penjiket. Alors, je, par manque de temps, je dois me contenter ici de signaler certaines scènes particulièrement énigmatiques. Dans le corridor, c'est la scène la plus connue de la peinture de Charistan, c'est la Louve romaine, avec Romulus et Rémus. Qu'est-ce qu'elle vient faire là? On ne va pas la voir à Paris, parce que l'exposition de Guimet ne rassemble que des œuvres qui sont actuellement au musée de Douchambé, et celle-là, elle est à l'Ermitage. Enfin, elle sera illustrée dans le catalogue. Alors, qu'est-ce qu'elle vient faire là? Avec des personnages très exotiques. Voilà. Marchak pensait à des performances d'acteurs qu'on aurait illustrées ici. Il y a toutes sortes d'hypothèses, toutes très ingénieuses, que ça pourrait avoir un rapport, la réappropriation de cette image pourrait avoir un rapport avec les mythes ancestraux des Turcs, que ça pourrait avoir un rapport avec les sympathies que les princes d'Asie centrale résistant aux Arabes éprouvent à cette époque pour Byzance. Ça, c'est un peu mon interprétation. Non. Pour le moment, je laisse ça de côté. Je dois laisser aussi de côté, mais ça, Pavel Lourier en avait parlé au colloque de l'an dernier, les panneaux de bois sculptés qui montrent assez souvent un héros à cheval combattant un fauve ou un dragon. Donc là, un répertoire qui rappelle tout à fait ce qu'on a à Valarcha. Alors, j'en viens maintenant donc aux peintures du Salon Bleu. Une tentative de restitution qui n'est pas mauvaise. Non. La disposition, c'est la disposition qu'on a en général sur la peinture sogdienne, c'est-à-dire des registres superposés. Et au mur faisant face à l'entrée, une divinité qui occupe toute la hauteur du mur. Et vous voyez, dans le cas présent, bon, vous devinez qu'elle est sur un trône avec, avec deux chevaux, ce qui indiquerait assez nettement une divinité solaire, probablement Mithra, mais que les Sogdiens appelaient rarement Mithra. Ils l'appelaient Varg, ça veut dire dieu, tout simplement. Marchak pense plutôt au dieu spécifique du soleil. Enfin, bon, visiblement, ça se situe là. Voilà, la disposition sur un registre superposé. Je vérifie là. Oui, alors voilà, un dessin plus précis du mur où on a cette divinité donc sur un trône de chevaux et les bandes qui se disposent autour. Alors, en fait, la bande du haut n'est pas narrative. Les personnages sont statiques. On a des banquets, on a une sorte de... Voilà, des personnages... Moi, j'appelle ça narratis personae, c'est-à-dire des... Peut-être on introduit les personnages qui vont apparaître ensuite dans les bandes narratives du dessous. Et puis une série d'animaux, à la fois des fauves et des animaux fantastiques, voilà un dragon, mais qui ne sont pas scellés. Donc ce n'est pas des montures de dieux. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Alors, on a pu faire l'hypothèse d'une sorte de tableau de chasse. Si un héros figuré dans les parties non conservées de la peinture avait pu être un exterminateur de monstres, quelque chose comme ça. Il faut tout de suite dire que la technique de dépose et de consolidation sur place des peintures semble avoir été un peu rustique. Pareil l'indiquait cette photo. La quasi-totalité des morceaux ont été trouvés par terre, pas sur les murs. Donc, dans les restitutions qui sont proposées, et les restitutions les plus élaborées sont proposées non pas un archéologue, mais le conservateur Sokolovski, qui a fait un très très bon travail. Enfin, il ne faut pas se leurrer, c'est en bas, ça doit être assez exact. Là, ensuite, plus on monte sur les murs, plus la disposition des scènes sur les murs est hypothétique. Donc, on a sur les bandes, la bande supérieure, des images assez statiques, et sur les deux bandes inférieures, un récit qui semble être en fait un cycle unique, qui se déploie. Alors, on en a longuement discuté avec Michael Schenker il y a 2 ans. Dans quel sens il faut lire? Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est comme ça? Et bon, je suis arrivé à la conclusion que tout se lit de gauche à droite, en commençant par le haut. C'est le seul moyen de construire une histoire qui se tient. Alors, ces scènes montrent des combats acharnés entre, d'une part, des cavaliers, qui sont exactement des cavaliers sogdiens. Alors, vous voyez, il y en a deux ici qui... c'est 3 cavaliers qui chevauchent de front. Alors, ça, c'est un fragment parmi l'autre. 3 cavaliers qui chevauchent de front. Et celui-là a pris 2 flèches à l'arrière de son casque. Et il a une expression. Soit il est en train de mourir. Je ne pense pas qu'il soit en train de mourir, en fait. Il s'accroche au cou de son cheval pour ne pas tomber. Et il a une expression de panique qui contraste complètement avec la manière habituelle, très impassible, dont sont représentés les guerriers sogdiens quand ils combattent du bon côté. Vous voyez, ces 2 camarades sont parfaitement impassibles, et lui, il est en position plus délicate. Alors, ces cavaliers combattent contre des démons, mais alors pas des démons bestiaux de type vraiment tantrique indien comme celui qu'on a vu, qu'on a montré au début. Ah. Ces démons-là ont des rôles subalternes, ils sont asservis, ils ont l'air d'être au service de la divinité, Nana, ou bien au service du héros principal. Mais à côté de ça, il y a des démons qui sont des démons guerriers, qui sont en fait exactement comme des... Voilà, ils sont ici. Ils sont exactement représentés comme des guerriers sogdiens, sauf qu'il y a un détail qui les caractérise, ils ont des crocs. Ouais. Celui-là, alors, certains ont des ailes sur leur casque, d'autres non. Il y a l'air d'avoir une hiérarchie entre eux. Donc, celui-là a des crocs, celui-là très nettement a des crocs. Alors lui, il n'est pas en bonne position, vous voyez, il a une flèche qui lui a traversé la joue. Certains ont des ailes. À nouveau, celui-là a des crocs. Et d'autres ont des couronnes, les crocs. Donc, visible, cette population de guerriers démons a une hiérarchie, elle est organisée, elle a des princes. Et ça, on va voir, c'est important quand on cherche l'interprétation. Alors, dans ces scènes apparaît la figure récurrente d'un personnage royal, couronné, une couronne à la sassanide, qui tient des attributs royaux, tantôt une hache, tantôt un sceptre. Ce personnage royal se trouve dans un char qui est tiré par des chevaux ailés. Et voilà, là est le nœud principal du problème de l'interprétation. Selon Marchak, à partir du moment où il est dans un char visiblement surnaturel, ça ne peut être qu'un dieu. Et puisque le char est tiré par des chevaux, Hélé, c'est de nouveau c'est le dieu solaire ou bien c'est Mitra. Mais il y a des objections. Les dieux sogdiens ne sont jamais représentés en mouvement. Ils sont toujours statiques. Alors, quand le dieu solaire qui est sur son cheval Hélé, sur son trône à chevaux, d'abord, en l'occurrence, il n'y a pas d'aile. Enfin, ça, c'est optionnel, il pourrait avoir des ailes. Mais vous voyez, c'est statique, il est sur son trône. Alors que l'autre, il est en mouvement. Quand les rois sassanides sont représentés, les rois sassanides sont parfois représentés aussi sur un trône avec des chevaux ailés, mais ce n'est pas un trône qui bouge. Ici, ce sont des chevaux fonctionnels. Et alors, le grand argument qui m'amène à penser que ça ne peut pas être un dieu, c'est cette scène où on voit ce même personnage avec son cheval ailé qui s'avance vers la déesse Nana en faisant un geste qui est un geste d'imploration. Un dieu ne ferait pas ça. C'est en fait un roi. Alors là, ce que je vais vous présenter ici, maintenant, à partir de maintenant, c'est une étude en cours d'élaboration avec Samra Azarnoush et Michael Schenker, étude qui sort des discussions que nous avons eues l'année dernière au moment du colloque sur l'Oustrouchana. Et bon, c'est la première fois, en fait, que le dossier de ces peintures a été rouvert depuis la publication de Sokolovski en 2009, mais cette publication, encore une fois faite par le restaurateur, était très descriptive et évitait l'interprétation. Qui peut être ce souverain guerrier sur un char tiré par des chevaux ailés? Alors, parmi les rois légendaires de l'Iran, il y en a un seul, qui a une tendance marquée à monter au ciel. Ça ne marche pas toujours, d'ailleurs. Parfois, il est précipité en bas. Et il a pour ça un véhicule idoine. Ce roi, c'est Keikaous. Et ça commence dès l'Avesta. Il est dit dans l'Avesta, il est dans la liste, ce qu'on appelle les listes de sacrifiants. Dans l'hymne à la grande déesse Anaïta, il est dit qu'il est allé lui sacrifier au sommet de la montagne de l'aigle. Qu'est-ce que ça veut dire, la montagne de l'aigle? Ça veut dire, c'est une façon concentrée de dire la montagne qui est si haute que les aigles n'arrivent pas à voler au-dessus. C'est-à-dire, c'est ce qui a donné dans la toponymie les Paropamissades, c'est la forme grecque, qui vient d'une forme iranienne, Pari ou Pairisaena, c'est-à-dire la région qui est autour de l'endroit où et qui est au-dessus des aigles. Voilà, c'est l'Hindoukouche. Enfin, ça a été identifié à l'Hindoukouche à cette époque. Dans l'Avesta, on ne sait pas à quoi ça se rattache. Alors, dans les textes Pélévi, Keikaous monte au ciel avec l'aide des démons, mais par un moyen qui n'est pas décrit. D'ailleurs, dans une des scènes, alors curieusement, dans une des scènes à Charlestown, vous voyez qu'il y a un démon asservi ici qui semble en fait... On en voit un autre à un endroit qui a l'air d'aider plutôt qu'il n'est écrasé. On a l'impression que c'est un démon soumis qui va aider le souverain à monter au ciel. Alors, certes, pour les gens familiers du Charnamé, ce n'est pas ce qui vient à l'esprit quand on pense à l'ascension de Keikaous au ciel. Ce qui est décrit dans Shahnameh, c'est qu'il est sur un trône tiré par des aigles. Ouais, les aigles, en fait, sont attirés par des gigots qu'on a suspendus au baldaquin du trône. Et comme ils sont attirés par les gigots, ils battent des ailes et ça monte au ciel. Mais ça, ce n'est pas originel. C'est emprunté au roman d'Alexandre. Ça n'est pas dans le mythe d'origine. Et donc je fais l'hypothèse qu'auparavant, on avait d'autres manières de représenter l'ascension de Keikaous au ciel. Par exemple, Biruni, qui écrit à la même époque que le Livre des Rois, mentionne un char de nuages. Voilà. Donc je pense qu'on peut... voilà, il n'y a pas d'objection à ce que ce soit ici Keikaous avec son char tiré par des Pégases. Donc, on aurait ici, si on accepte de me suivre, et je pense que... Voilà, mes co-auteurs acceptent de me suivre jusque-là. Après, ils vont peut-être me lâcher en cours de route, mais j'espère quand même montrer assez d'éloquence la semaine prochaine pour rallier les dernières réticences. On tiendrait là une première clé de lecture de ces peintures. Pour la suite, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, qui sera par ailleurs le dernier cours.